Fêtes et culture juive avec Raïm Slonim sur le 97.1.
Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes à la veille de Pourim. Peut-être que le moment où vous allez écouter la Megillah, ça va être Pourim même. Aujourd'hui, on est le 13 Adar et en même temps le 13 mars. Ça tombe en même temps cette année. Et, parce qu'il y a des écarts d'ailleurs, très souvent, entre le système, le calendrier solaire et le calendrier lunaire. Et dans le système juif, on rattrape. Donc, on rattrape les 11 jours qui manquent par 30 jours qu'on rajoute de temps en temps. Donc, ça fait qu'il y a des écarts de temps en temps, et on revient. En fait, il y a toujours des écarts. Par-ci et par-là, on est en avance ou on est en retard, mais cette fois-ci, ça tombe exactement le 13 Adar, avec 13, pardon, le 13 mars. Alors, il y a ce soir, donc, Pourim, et la veille de Pourim, c'est le jeûne d'Esther, aujourd'hui. Donc ce soir, c'est Pourim. Pourim commence, comme toutes les fêtes juives, commence au soir. Ça veut dire à partir de la tombée de la nuit, il y a la fête qui commence, et ça dure jusqu'à la tombée de la nuit, de la nuit d'après. Et donc la fête de Pourim, on va parler un petit peu de cette fête mystérieuse qu'est Pourim. On les reconnaît carrément différemment. On a l'habitude même de se déguiser. En fait, ce n'est pas une habitude qui est marquée dans la Bible. Et pourtant, c'est une habitude. Et certainement qu'il y a des raisons. C'est une manière de s'amuser. Mais quand même, il n'y a pas de hasard. On va voir ça. Mais l'essentiel de Pourim, il y a quatre mitzvot. Tout d'abord, lire ce que s'appelle lire la Megillah, lire l'histoire de Pourim. Le soir et le lendemain, matin de préférence, mais sinon toute la journée. Et ensuite, on passe en trois autres mitzvot, donc les commandements, si on peut dire, trois autres devoirs, que c'est donner des cadeaux aux pauvres, à deux pauvres au moins, et donner des éléments de la nourriture, en fait, des cadeaux domestiques entre nous. Ça veut dire on donne aux amis, ou en tout cas, pas forcément des pauvres, mais on donne aux amis. Et c'est ça aussi qui renforce l'amitié. Et ensuite, enfin, le repas, le grand festin de Pourim. Alors, cette année, c'est un petit peu problématique, car ça tombe vendredi. Et vendredi, on sait que normalement, dans les maisons juives, on ne mange pas beaucoup vendredi pour laisser la place et pour un bon repas de vendredi soir. Donc, cette fois-ci que Pourim tombe en même temps que vendredi, ça pose un problème, on cherche des solutions. Il y a ceux qui mangent le repas le matin, carrément, même si habituellement on a l'habitude de le faire à la fin de Pourim. Vers la fin de Pourim, ça veut dire le dernier moment de Pourim, avant la nuit. Mais cette fois-ci, il y a ce qu'il mange le matin pour ne pas nuire quelque part le repas de vendredi soir. Il y a ce qu'il mange le midi. Et sinon, on peut à la limite manger l'après-midi. Et il y a même cette habitude, un petit peu contestée, mais il y a ce qu'ils font. Il y a ceux qui ne le font pas, il y a des différentes habitudes et coutumes dans la communauté juive. Là, il fait comme ci, là, il fait comme ça, mais l'essentiel, c'est que c'est le même Torah. C'est qu'on commence vers le soir, donc vendredi après-midi, et on enchaîne dans le repas de Shabbat, et on fait un kiddush au milieu. En fait, des différentes choses, mais l'essentiel, c'est de faire ces mitzvot le jour de Pourim. Alors, tout d'abord, on lit la Megillah. La Megillah, c'est l'histoire de Pourim. L'histoire de Pourim, il faut savoir de quoi s'agit. Donc chaque année, on lit l'histoire. Et on fait attention à lire l'histoire entière, depuis le début jusqu'à la fin. Et si on a manqué quelque chose, on considère que ce n'est pas bon, on n'a pas compris, on n'a pas lu. Ce n'est pas qu'il manque un détail, lorsqu'il manque ce détail, il manque tout. Donc on fait attention à écouter l'histoire, depuis le début jusqu'à la fin. Alors, c'est quoi l'histoire? C'est une histoire qui s'est passée il y a à peu près 2500 ans. Et c'était entre la destruction du premier temple et la construction du deuxième temple, du second temple. Et entre les deux, il y avait à peu près 70 ans d'exil au Babylonie, ensuite dans la région. Et à ce moment, à la fin des 70 ans d'exil, il y avait celui qui régnait sur la puissance perse, mais en tout cas, qui régnait dans pas mal de provinces. Dans la Megillah, on nomme 127 provinces, c'était Achashverosh. Il était le roi tout-puissant. Et on nous raconte un petit peu au début comment il a fêté l'anniversaire le jour d'anniversaire où il est devenu roi. Comment il a fait, comment il a décoré la salle. En fait, c'est un peu exagéré, mais en tout cas, on nous parle des choses qui, à nos yeux, ne sont pas très importantes. Et pourtant, il faut l'écouter. Ensuite, il y a l'histoire qui nous touche directement. On raconte au début l'histoire de, comme on a dit, l'histoire d'Achashverosh, comment à un moment donné il s'est fâché ou bien s'est énervé plutôt contre sa femme Vashti, qui d'ailleurs il est devenu roi grâce à elle. Et pourtant, il voulait pas se présenter. Une longue histoire. En tout cas, on l'a conseillé de tuer sa femme. Et ensuite, il n'est pas marqué clairement dans la Megillah qu'il a tué sa femme, il est marqué qu'il ne revient pas, mais en tout cas, c'est ce qui s'est passé. En tout cas, ensuite, on a cherché une nouvelle femme. Et là, il commence une histoire. Toutes les jeunes filles devraient se présenter devant le roi, et finalement, il a choisi une fille juive qui s'appelle Esther, et elle était présente donc dans le palais, et pourtant on ne savait pas son origine. Son oncle Mordechai, ou son cousin Mordechai, qui c'est lui qui s'occupait d'elle parce qu'elle n'avait pas de parents, il a demandé de ne pas dire son identité. Alors, à un moment donné, le ministre qui donnait des conseils au roi, par rapport à différentes choses, il est devenu grand et il a exigé que tout le monde se prosterne devant lui. Et pourtant, Mordechai, ce cousin d'Esther, qui était aussi dans le Sanhédrin, dans le tribunal, le grand tribunal, il ne s'est pas prosterné devant lui, il ne voulait pas se prosterner devant lui. À ce moment-là, Haman, il a demandé de détruire pas seulement lui, mais tuer tous les peuples juifs. Et là, il y a toute une histoire qu'il se prépare, donc il cherche une date pour que ce soit favorable, parce qu'il savait que jusqu'à là, tout ce qui touchait au peuple juif, ça veut dire tout ce qui tuait, fait du mal au peuple juif, ça retournait contre eux. Et donc, il a eu peur, c'est pour ça qu'il a choisi un mois. Donc, il a choisi le mois d'Adar, que selon lui, c'est un mauvais mois pour les Juifs. Et ça tombait aussi, lorsqu'il a jeté cette sort, ça tombait sur le 13 Adar. Donc, une catastrophe. Le 13 Adar, donc l'année prochaine, c'était une année avant. Et il y a ce décret de tuer tous les peuples juifs, et Mordechai réagit. Tout d'abord, il réagit au niveau spirituel. Il jeûne, il prie. Ensuite, il réagit au niveau diplomatique. Il envoie sa cousine, donc Esther, de se présenter devant le roi. Mais ce n'était pas simple. C'était une reine, mais pourtant, elle n'avait aucun droit, comme c'était à l'époque. Et si elle dépasse ses droits, on peut la tuer. Là-bas, c'était facile de tuer. Donc, elle a peur d'aller finalement. Elle va, elle organise un festin entre Achashverosh et Haman. Et il y a pas mal de choses qui se passent. Finalement, Haman, il était dénoncé. Enfin, dénoncé, on savait ce qu'il voulait faire. Mais il était le roi Achashverosh. À un moment donné, il s'est énervé, il s'est fâché avec Haman. Donc, il l'a tué. Et finalement, les Juifs, ils ont eu le droit de se défendre. Le jour J des 13 Adar, effectivement, il y avait une guerre, il y avait beaucoup d'antisémites à l'époque, c'est pas nouveau. Et pourtant, les Juifs, ils ont gagné la guerre et ils ont arrivé à donc rester vivants, à garder pas seulement garder leur identité, mais ça veut dire pouvoir rester, parce qu'avant, le décret était qu'on va tuer tous les Juifs et ils n'ont pas le droit de se défendre. Donc, un décret royal. Et là, d'un coup, on a le droit de se défendre. Et donc, ils ont arrivé, finalement, ce décret était annulé. Pas vraiment annulé, mais ça veut dire que le fait que les Juifs s'en sortaient bien, à partir de là, on a fixé, le tribunal de l'époque, ils ont demandé de fixer Pourim comme une date de joie, ce qu'on a fait tout le temps jusqu'à aujourd'hui. Le 14 partout, mais le 15, parce que la guerre a duré encore un jour, le 15, pardon, elle a duré encore un jour, donc elle a duré encore le 14, parce que si partout la guerre a duré, elle était le 13, et donc ils ont été reposés le 14, c'est pour ça qu'ils ont fait la fête le 14 dans la ville de Suse, et la guerre a duré encore un jour le 15, pardon, le 14, donc ils se sont reposés le 15. Et on a fixé la date de 15 comme une fête dans la ville de Suse. Mais ensuite, on a fixé aussi que toutes les villes entourées de murailles à l'époque de Josué, ils vont fêter donc le 15. Donc, il y a pas beaucoup, mais il y a quand même pas mal de villes qui le fêtent, surtout en Israël, comme la ville de Jérusalem qui était entourée à ce moment-là par des murailles. Donc, on fait comme à Suse, ou bien d'autres villes, peut-être Haïfa aussi, la ville, et d'autres, Hebron, c'est sûr qu'elle était entourée, et donc on fait là-bas le 15. Cette année, que ça tombe vendredi, donc alors cette fois-ci, il y a un petit mélange, nous on fait le vendredi, donc le 14 Adar, comme on a dit tout à l'heure, on commence déjà le 13 mars en soir. Et on lit la Megillah la première fois et la deuxième fois, mais cette fois-ci, puisque ça tombe Shabbat le 15, et ceux qui vivent dans une ville entourée, ils ne peuvent pas lire le Shabbat pour certaines raisons. Et alors donc, ils lisent aussi comme nous, et c'est la seule fois, le 14. Et il y a certains devoirs qu'ils font le 14, certains devoirs qu'ils font le samedi, et certains devoirs qu'ils font dimanche. Ça, c'est un résumé de cette histoire et de cette pratique. Donc, alors, cherchez autour de vous où est-ce qu'il y a la lecture de la Megillah, faites des biens entre vous et par Internet, vous pouvez trouver tous les détails de ce qu'il faut faire, donner aux pauvres, certainement que vous étiez sollicité plus qu'une fois, et donner pour tel but et donner pour tel but. Donc, c'est le jour J où il faut le faire, donc le vendredi. Et le reste des mitzvot aussi, donner, échanger des mots, ça veut dire de la nourriture entre des amis, et faire des amis aussi, comme ça, c'est une bonne chose. Échanger, ça veut dire que là, il donne à l'autre, si l'autre, il veut lui donner, l'autre, il donne à là, mais c'est une manière de renforcer l'amitié. Et aussi, le repas de Purim, où on va revenir peut-être à cette notion de repas de Purim. Maintenant, il y a quelque chose d'intéressant, c'est que il y a deux fêtes on a plusieurs fêtes dans la communauté juive. Il y a ce qui est marqué dans la Torah, les grandes fêtes comme Pesach, Shavuot, Sukkot, Rosh Hashanah, Kippour. Et ensuite, ces deux fêtes, Chanukah et Purim, qui sont deux fêtes qui étaient plus tardives, c'était institué par nos sages. Alors, il y a une différence, tous les deux c'est une victoire entre les ennemis, mais il y a une différence entre Hanouka et Purim. Hanouka c'est plutôt une fête spirituelle, on n'a pas ce devoir forcément de manger plus que d'habitude, d'échanger des cadeaux, en fait, on a cette habitude, d'allumer les bougies de Hanouka. Maintenant, ce qu'on fait en plus, c'est en plus. Mais l'essentiel de Hanouka, c'est allumer les bougies. Donc, plutôt une idée spirituelle. Par contre, Purim, c'est une fête plutôt matérielle. On mange bien, bien sûr qu'on lit la Megillah pour comprendre de l'histoire, pour vivre avec l'histoire. Pour comprendre comment l'histoire, elle est tellement dans la réalité aujourd'hui, dans l'actualité aujourd'hui. Mais ensuite, on fait des biens avec les autres, on veille que les autres ils ont de quoi manger. On donne aux pauvres des possibilités de manger. Donc, alors tout ça, c'est plutôt une fête matérielle. Donc, comme on a dit, Hanouka, c'est plutôt une fête spirituelle. Et Purim, c'est plutôt une fête matérielle. La raison, c'est parce que Hanouka, les décrets étaient contre la spiritualité des Juifs, de ne pas faire certaines lois ou carrément de ne pas faire les lois. Par contre, Purim, c'était contre le corps juif, c'était un antisémitisme pur et net. Et c'est pour ça qu'on l'a fait d'une façon plutôt matérielle, que le corps se réjouit par la nourriture et par les autres choses, les cadeaux qu'on donne les uns pour les autres. Et on aide les pauvres. Maintenant, il y a plusieurs choses. C'est très intéressant que quand toutes les fêtes juives, elles sont très profondes. Elles sont très profondes, les fêtes juives. Il y a beaucoup de détails. Et chaque fois, on peut trouver une autre profondeur. Mais on va voir quelques petits détails. Tout d'abord, cet livre d'Esther s'appelle Megillat Esther. Megillah, ça veut dire un rouleau. À l'époque, un livre était fait souvent par un rouleau. Donc, c'était le rouleau d'Esther. Comme chaque chose qu'il y a, il n'y a pas de hasard. Les noms aussi, il faut chercher la profondeur de ces noms. Donc, alors, dans le Chassidut, on explique que Megillat Esther, ça veut dire aussi, et ça montre aussi le sujet profond de cette histoire. Parce que, d'une part, c'est une histoire qui s'est passée il y a très longtemps. Aujourd'hui, on est loin de cette histoire, même si l'histoire se répète. Mais quand même, on a d'autres histoires, d'autres problèmes. Et pourtant, on garde cette histoire comme modèle. Il y a pas mal de fêtes qui étaient annulées. Parce qu'on ne peut pas faire toutes les fêtes. Parce que dans l'histoire juive, on avait beaucoup d'événements qui, à l'époque, ils ont été respectés. Aujourd'hui, nos sages, en fait, aujourd'hui, il y a très longtemps, il y avait un livre qui s'appelait Megillat Taniot, Megillat Tanit, que c'était un livre où il y avait marqué des événements, des différents événements qui se sont passés, des biens et des mauvais, qui se sont passés, qu'on avait l'habitude de les marquer, et après, c'était annulé, ou peut-être tout simplement parce que on ne peut pas faire de tous les jours un jour de fête. Donc on a gardé deux, Purim et Hanouka. Maintenant Purim et Hanouka, tous les deux, ils ont un message éternel. C'est pour ça qu'on les garde. Donc alors il y a plusieurs messages. Tout d'abord au niveau de l'antisémitisme, grâce à Dieu, on souffre encore. Mais il y a d'autres idées. L'idée aussi, tout d'abord, une idée très simple. On dit que chacun il doit faire sa propre Megillat Esther. Ça veut dire l'histoire, encore une différence entre Hanouka et Purim, c'est que Hanouka, d'ailleurs on dit qu'il n'y a pas de hasard, il y a beaucoup de profondeur comme on a dit tout à l'heure, et donc même les jouets, ce qu'on joue, les différents jouets de Purim et de Hanouka montrent un petit peu cette idée. Si vous remarquez, Purim, on joue, en fait, on fait des bruits avec ce que s'appelle les crécelles. Alors comment on tient habituellement les crécelles? On les tient par les bas. Et les choses tournent par là-haut. Ça veut dire qu'on tient quelque chose en bas et on fait tourner quelque chose qui se trouve là-haut. Par contre, Hanouka, c'est le contraire. On tourne, il y a cette toupie qu'on tourne par là-haut et les choses tournent par les bas. Et c'est très significatif. Car le miracle de Hanouka était quelque chose, un miracle clair. Il y avait un miracle ici, tel miracle, l'autre miracle, que peu de gens ils ont gagné, beaucoup de gens, c'est un miracle. Que des gens faibles ils ont gagné des gens forts, c'est un miracle. Et donc on voit que la boutique, si on peut dire comme ça, tourne par là-haut. Il y a quelqu'un là-haut qui le tourne. Donc c'est un miracle visible. Par contre, lorsqu'on parle de Purim, alors il n'y a pas de miracle à Purim. Dans l'histoire, tout était naturel. Mais lorsqu'on met tous les événements qui se sont passés, on les met ensemble, alors à ce moment-là, on remarque qu'il y avait un miracle. C'est pas possible que ça, c'est arrivé après ça, ensuite ça, toutes ces choses qui sont arrivées un après l'autre, et ils ont créé cette Megillah, ce livre, cette histoire, c'est magnifique. Comme quelqu'un qui va faire il va remarquer que dans la vie, il y a des choses magnifiques qui s'enchaînent. Il n'y a pas de miracle, mais il y a des choses magnifiques qui s'enchaînent. Et ça, c'est un petit peu l'idée de Purim. Purim, on nous demande, ça c'est parmi les messages, parce qu'on dit que l'histoire de Purim, comme les autres fêtes, doivent être des messages éternels. Il faut lire, et ensuite comprendre, et ensuite l'appliquer. Donc, là, appliquer le devoir de Purim, aussi appliquer les messages de Purim. Donc, les messages de Purim, il y a plusieurs, mais parmi les messages, c'est que chacun doit faire sa propre Megillah, faire réfléchir, donc réfléchir et remarquer sa vie, et mettre ensemble les différentes choses qu'il a eues, et remarquer qu'il y a des choses, il y a un Dieu qui dirige sa vie. Donc, ça, c'est l'idée, comme dans la Megillah, que c'est bizarre, toutes ces histoires. Ça peut arriver que le roi il va choisir une fille juive comme reine, mais ça peut arriver aussi que son cousin soit Mordechai qui a fait toute cette histoire. Et ça peut arriver. Il y a plusieurs choses qui sont arrivées un après l'autre, que chaque détail à part, il n'y a pas de merveille. Mais tous les détails ensemble, qui l'un enchaîne l'autre, ça c'est un miracle naturel. Donc alors ça c'est un petit peu le message de Purim, mais ça aussi dans notre vie il y a beaucoup de choses extraordinaires qui nous arrivent mais on ne remarque pas parce qu'on ne les met pas dans un livre, on ne les met pas ensemble. Mais lorsqu'on les met ensemble on remarque que Dieu il dirige notre vie. Et ça c'est parmi les messages de Purim, un message très très général. Mais encore quelque chose, d'ailleurs c'est le nom de, comme on a dit tout à l'heure, que le nom de cet livre d'Esther s'appelle Megillat Esther. Megillat Esther, ça veut dire, comme on a dit, un rouleau d'Esther, mais Megillat Esther, ça veut dire aussi Megalé en hébreu, ça veut dire révéler. Et Esther en hébreu, ça veut dire cacher. Révéler ce qui est caché. Comme on a dit tout à l'heure, mais aussi c'est dans notre vie, on est dans un monde caché, qu'on ne comprend pas. On comprend peu notre monde. Pour savoir que j'ai un cœur, je dois apprendre à l'école. Mais je ne sais pas, tant que le cœur fonctionne bien, grâce à Dieu, et tant que l'homme n'a pas de problème médical, il peut ignorer tout ce qui se passe dans son corps. Ça montre comment on ne sait pas, tout est caché dans notre système de vie. On apprend des choses, oui, c'est vrai qu'il y a des gens qui savent plus que les autres, mais après tout, on ignore beaucoup de choses, et c'est ça le système, comment Dieu a créé notre vie. Alors si on ne comprend pas notre vie, on ne comprend pas notre entourage, on ne comprend pas, bien sûr, celui qui a créé le monde, pourquoi il a créé, comment il a créé. Donc on est dans un monde, dans un système, toute notre vie s'appelle Esther. Esther, comme on a dit tout à l'heure, ça veut dire caché. Toute notre vie, elle est une histoire cachée qu'on ne comprend pas notre histoire. Ensuite, on nous dit, voilà, dans cette histoire, il faut faire un Megillat Esther. Il faut révéler ce qui est caché. Ça veut dire que la fête de Purim nous demande de réfléchir et de révéler et de remarquer et de comprendre ce qui est caché. Donc, alors, à ce moment-là, on crée notre propre Megillat Esther, on crée notre propre histoire, notre propre victoire, notre propre histoire, parce qu'on révèle, on a un devoir de révéler ce qui est caché dans notre monde, et donc à ce moment-là, on crée notre propre liberté, parce que le problème, il est marqué qu'il y a une pauvreté, mais la pauvreté la plus grande, c'est une pauvreté d'esprit. Quand quelqu'un... malheureusement, il y a des extrêmes, des gens qui ont l'impression qu'on court derrière eux, qu'on insulte, mais c'est pas vrai. Mais ils ont dans la tête cette notion. Ça arrive, bien sûr, mais quelqu'un qui a dans son esprit cette idée. Alors ça, c'est dans une extrémité. Mais il y a aussi les gens qui ne réagissent pas devant la vie, la vraie vie, parce qu'ils ne comprennent pas la vraie vie. Donc ça, c'est notre devoir de révéler ce qui est caché. Bien sûr, révéler Dieu qui est caché dans notre système et comprendre ce qu'il veut, comprendre qu'est-ce que c'est la vie et pourquoi. À ce moment-là, c'est la richesse quand quelqu'un il a une bonne compréhension de notre entourage, de notre vie. Maintenant, la semaine dernière, on a vu un petit peu que parmi les devoirs de Pourim, c'est, après les trois premiers devoirs qu'on va rappeler, lire la Megillah soir et matin, en trois soirs et jours, et ensuite aider, donner quelques pièces de pauvres, pièces de valeur, et ensuite donner des cadeaux de ce qu'on peut manger tout de suite à nos amis et au-delà. Et ensuite, il y a le repas de Pourim. Le repas de Pourim, c'est un festin. Mais un festin où on boit. On boit du vin et dans les Talmud, il est marqué qu'il faut boire jusqu'à le moment où on ne va pas connaître les différences entre deux choses importantes. Ça veut dire qu'il faut que la terre tourne à tel point qu'on ne connaît pas les différences entre dans le sujet de Pourim même, parce que dans le sujet de Pourim même, dans cette Megillah, ce livre d'Esther, on parle, on présente Aman comme le méchant, on présente Mordechai comme le gentil. Donc il y a d'autres personnes, des gentils et des méchants là-dedans, mais ça veut dire deux extrêmes. On dit ça c'est bon et ça c'est mauvais. Alors, ça c'était toute la journée de Pourim, où on a essayé de faire la différence entre bon et mauvais. Et à la fin du Pourim, lorsqu'on boit, on ne reconnaît plus les différences. C'est très bizarre ce système. Pourquoi ne pas reconnaître les différences, ne pas connaître les différences entre le bien et le mal? Et d'ailleurs, oui, c'est compliqué à comprendre. Alors il y a des différentes explications. Tout d'abord, au niveau pratique, il est marqué dans certains livres que quand on dit qu'il faut boire, ce n'est pas boire réellement. En fait, oui réellement, mais il ne faut pas boire jusqu'à ce moment où on perd la tête. Il faut voir, parce que on est un petit peu fatigué, on va dormir, et à ce moment-là, on ne reconnaît pas les différences entre le bien et le mal. Et en tout cas, pas aussi fort, parce que lorsqu'on est réveillé, lorsqu'on est éveillé, alors à ce moment-là, on fait bien la différence entre les choses. Lorsqu'on dort, on fait des allusions. Donc alors, c'est ça l'idée, il faut boire, être fatigué, et donc... aller se coucher, à ce moment-là, on ne fait pas la différence entre le bien et le mal. Ça, c'est une solution pour les gens qui ne savent pas garder un équilibre. Et quand ils vont boire, ils vont perdre carrément la tête. Mais le fait même qu'il est marqué dans les Talmud qu'il ne faut pas connaître la différence entre le bien et le mal, il y a une raison. Il y a ce qui explique, c'est très intéressant, que dans le monde encore, dans le monde juif, tout est exact, et tout est chiffré et déchiffré. Et si vous savez que chaque lettre hébraïque, c'est aussi un chiffre. Comme la lettre Aleph, ça correspond au chiffre 1. Et la lettre Bet, ça correspond au chiffre 2. Donc dans ce cas, le mot Arur Aman, maudit soit Aman, c'est de, si vous déchiffrez toutes les lettres, Aleph, ensuite Resh, ensuite Vav, ensuite Resh, ensuite He, ensuite même, ensuite Nun, vous allez arriver en total de 502. Si vous allez prendre les mots Baruch Mordechai, béni soit Mordechai, vous allez mettre toutes ces lettres encore une fois dans le même système, Bet, encore Resh, encore Vav, encore Resh, encore, pardon, Bet, Resh, Vav, Chaf, et ensuite même Resh, Dalet, Yud, vous allez avoir le même résultat, 502, c'est très intéressant. On ne trouve pas souvent deux mots dans la même phrase que l'un et l'autre, ils ont le même chiffre. Ça veut dire qu'il y a un rapport entre eux. En tout cas, dans ces explications, on dit qu'il faut boire à tel point qu'on a du mal à faire des calculs, mais pas qu'on perde la tête. Ça veut dire qu'on perd un petit peu la tête, mais pas beaucoup. Mais ça, encore une fois, c'est une solution pour les gens qui... Il y a un risque. Qu'ils vont, qui vont perdre la tête. Dans le Chassidut, on explique que c'est vrai qu'il y a une différence entre maudit soit Aman et béni soit Mordechai. Il faut dans la vie savoir que ça c'est mal et ça c'est bien. Dans des différentes choses, ça je touche, ça je touche pas, ça je m'approche, ça je m'éloigne. Tout le système donc, de la Torah, elle est liée avec cette notion de bien et de mal. Tout le système du monde est lié avec la notion de bien et de mal. On s'éloigne de mal et on s'approche de bien. Mais ça, c'est la vie simple, quelque part. La vie approfondie, il trouve dans le mal un but. Ça veut dire qu'on ne cherche pas le mal. Le mal, il est mauvais, il faut repousser le mal. Mais quelque part, une fois qu'on avait du mal dans notre vie, on voit comment ça peut servir pour le bien. Et comment finalement le mal, il a un but positif. Alors c'est un sujet que c'est vrai qu'il faut expliquer un petit peu plus. Mais en tout cas, on va rester avec cette idée que l'idée de Purim, l'histoire de Purim nous explique beaucoup de choses. Ça nous explique et que ça c'est bon et ça c'est mauvais, ça nous explique énormément de choses dans notre vie, comme on a vu, faire un ordre, faire notre propre Megillah dans notre vie. Mais l'histoire de Purim, à la fin de Purim, quelque part, une fois qu'on est bien rentré dans les différences, on comprend encore quelque chose d'encore plus profond, que même si qu'il y a bien une différence entre le bien et le mal, mais même le mal est fait pour celui qui a fait le bien. Ça veut dire Dieu, il a créé le bien et le mal, il a bien séparé le bien et le mal, et quelque part, le mal aussi, il a sa place dans ce monde. Encore, c'est un sujet compliqué, difficile, mais nous, dans notre devoir de jour en jour, on s'éloigne du mal, on se bat avec le mal, mais il y a une autre compréhension, que cette compréhension, elle n'est pas tous les jours, elle est que Purim. À un moment donné, à comprendre que le mal, il a quelque chose de bien. Alors, en même temps, on repousse le mal, mais une fois que le mal est arrivé, une fois que quelqu'un qui avait du mal, il doit savoir, il doit chercher le bien qu'il y a là-dedans. En tout cas, il y a beaucoup de choses à dire par rapport à cette fête de Purim. C'est une fête très, très profonde. Il est marqué que même après Mashiach, que Mashiach viendra, et le monde, il soit plutôt un monde de paix et un monde positif. Mais cette fois, en fait, elle va être fêtée. Alors même si on n'aura pas de raison de fêter, parce qu'il n'y aura plus de mauvais et de bien, comme aujourd'hui, mais on va voir comment cette période difficile a influencé le monde et a amené le monde à cette période magnifique de Mashiach. En tout cas, encore une fois, on vous invite à plonger dans le royaume de Purim. C'est une fête très importante, une fête très joyeuse, une fête qui, d'ailleurs, on a parlé tout à l'heure de se déguiser. Et l'idée de se déguiser, ce n'est pas une obligation, oui, c'est une habitude, c'est une coutume, et même dans la rue, nos juifs, on le voit dans cette période, parce que ça commençait par Purim, mais ça est allé ailleurs. Mais se déguiser, ça veut dire aussi de changer, de savoir, de pouvoir changer son aspect extérieur. Il faut savoir avancer dans la vie. Il faut penser plus profond dans la vie. Donc alors, si on reste toujours le même, c'est pas bon. Parfois, il faut changer pour avancer. Donc ça, c'est parmi les symboles de se déguiser. En tout cas, faites les mitzvot de Purim. Partout dans le monde, il y a des choses qui sont organisées. Vous pouvez trouver des détails et des renseignements sur la fête sur Internet, comment faire et où faire. En tout cas, une très bonne fête de Purim à vous et à bientôt, à la semaine prochaine.
Fête et culture juive avec Raïm Slonim sur le 97.1.